Une des choses qui nous a beaucoup préoccupés pendant cette période de confinement, c'est évidemment comment on va se divertir, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps. Évidemment, le divertissement, c'est quelque chose qui est central dans notre société. Et il y a une question qui est évidemment aussi centrale, c'est comment on va se divertir demain. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, mais qui est aussi directeur de collection aux éditions de l'Aube, et qui a sorti un essai aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Comment se divertir demain? Et avec Jérémy, on va parler de qu'est-ce qui nous a permis de passer le temps pendant toute cette période, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire, comment on va retrouver cette vie intense à laquelle on tient tant chacun et chacune d'entre nous. C'est une discussion avec pas mal de chiffres, enfin pas tant que ça, mais quand même quelques-uns, qui est vraiment intéressante. Je pense qu'il y a des notions philosophiques qui vont vraiment vous plaire. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti! Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah, super. On a été présenté par Aurélie Jean, que j'ai reçu plusieurs fois sur le podcast, qui est une numéricienne, et qui m'a dit, il faut absolument que tu discutes avec mon ami Jérémy. Et effectivement, il se trouve que tu viens de sortir un mini-essai, je sais pas comment le dire, sur les loisirs pendant et les loisirs après cette crise qu'on est en train de traverser. Là, on est bientôt à la sortie du confinement. Toi, tu es directeur des études d'un institut de recherche. Pourquoi tu t'es intéressé à cette question des loisirs?
Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi de faire ce podcast avec toi. Ça égaye mon confinement et ce jour de confinement. Pourquoi ce sujet-là? Ben, en fait, beaucoup de gens réfléchissent à l'après, beaucoup de gens réfléchissent au monde d'après, à la façon dont on va pouvoir reconstruire le pays, à la façon dont on peut penser le pays et la société de demain. Et moi, je me suis dit, bon, il y a déjà beaucoup de gens qui le font et peut-être que ça serait intéressant de réfléchir à la société de demain, mais à travers quelque chose qui nous concerne tous de façon finalement très intime, c'est la façon dont on se divertit, la façon dont on trouve, je dirais, des parenthèses à notre vie quotidienne, la façon dont on trouve un peu d'intensité à notre vie quotidienne. Et je trouve qu'il y a évidemment, c'est un des trucs qui a le plus changé notre quotidien depuis qu'on est confiné, c'est le divertissement, c'est la façon dont on se divertit, c'est la façon dont on passe notre temps. Et du coup, avec la façon dont on est en train d'imaginer le déconfinement, bah un des éléments qui m'intéressait, c'était de me dire, mais comment on va faire pour se divertir comme on se divertissait avant, alors qu'on va avoir quand même des besoins très importants, justement, de divertissement pour finalement retrouver notre liberté et le bonheur d'être libre, quoi. Donc, ça m'intéressait de travailler sur un sujet qui parle à tout le monde, en tout cas.
Et dans ce papier, il y a un chiffre qui m'a vraiment choqué, qui est, parce qu'en fait, tu disais qu'on était une société de loisirs. Est-ce que tu peux reprendre le chiffre du pourcentage de temps de travail sur le temps éveillé et le comparer à avant? Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas du tout. Et après, peut-être expliciter pourquoi on a ce chiffre, pourquoi on arrive à ce chiffre-là.
Alors, t'as raison, c'est un élément qui est central d'ailleurs quand on parle du divertissement et de la société des loisirs, de la société de l'amusement. Effectivement, et ça c'est le sociologue qui s'appelle Jean Viard qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Il dit que nous sommes rentrés maintenant aujourd'hui dans ce qu'il appelle la société des loisirs. Et donc il dit ça parce qu'en gros, il dit voilà, maintenant sur une vie éveillée, si on prend la vie d'un individu dans son intégralité entre le moment où il naît et le moment où il meurt, eh ben la vie qu'il va consacrer au travail, en fait, ça va représenter juste 12% finalement de sa vie éveillée. Uniquement 12% de sa vie éveillée. Alors que, par exemple, si on regarde ce que ça représentait, par exemple, en 1936, eh ben, on était à 40%. 40% du temps de travail dans une vie éveillée en 1936. Et aujourd'hui, voilà, le temps de travail ne représente que finalement 12% d'une vie. En fait, on l'explique pour deux raisons principales. D'une part, évidemment, l'allongement de la durée de vie qui fait que la part du travail et du temps travaillé s'est réduite dans notre vie éveillée. Et on l'explique aussi par un certain nombre de lois, évidemment. Et là, on peut parler des 5 semaines de congés payés, on peut parler des RTT et on peut parler évidemment des 35 heures qui ont fait que le temps de travail dans une vie éveillée s'est considérablement réduit au fil des années et au fil de notre vie. Et c'est pour ça qu'en gros, une grande majorité de notre vie et de notre temps est consacré à du temps hors travail et donc à des loisirs.
C'est assez choquant parce que quand tu dis ça, on a toujours l'impression qu'on travaille plus, qu'on travaille beaucoup. Il y a plein de gens qui font des burn-out et en fait, on réalise que finalement, comme on sort des études plus tard et qu'on meurt plus âgé tandis qu'il y a la retraite, ben finalement, effectivement, ce temps de travail, ce temps donné au travail est assez faible finalement. C'est assez étrange.
Bah, et par ailleurs, en fait, on pourrait par exemple imaginer de mieux ressentir en fait ce temps libre qu'on a réellement et en réalité, mais en fait il y a un élément par exemple qui vient empêcher l'émergence de sentiments finalement qu'on a du temps libre, c'est notamment le numérique, l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux. En fait, l'économie du numérique, l'économie de l'attention, en fait, est venue empiéter sur votre temps libre. En fait, tout l'intérêt pour eux et tout l'intérêt des applications, tout l'intérêt du numérique et de toutes les applications que vous téléchargez sur votre téléphone est de venir grappiller et de venir gratter et de venir s'emparer en fait de votre temps libre. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle le sentiment de ce temps libre-là qui est réel, on l'a pas comme on devrait l'avoir parce que ben, finalement, notre cerveau est pris par tout ce qui est venu empiéter sur ce temps libre.
Et alors justement, si on parle de divertissement, on va revenir un petit peu sur le divertissement pendant le confinement parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant et que tu as pu étudier à travers l'Institut. Est-ce que tu peux nous dire comment les gens se sont divertis avec et je sais comme tu as des chiffres, c'est d'autant plus intéressant, je trouve, parce qu'il y a l'anecdote et puis il y a les chiffres, la réalité de ce que font les Français.
Bah en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que très vite, dès le début du confinement, donc en gros le 17 mars, les Français ont voulu se rassurer en se plongeant dans un certain nombre effectivement de divertissements, dans un certain nombre de passe-temps. Et donc dans ces passe-temps-là, il y a notamment la cuisine, la pâtisserie, où on s'aperçoit en gros quand on regarde les études de consommation qu'on a une augmentation. En fait, par rapport à une semaine normale dans notre vie habituelle, on a une augmentation de plus 100%, de quasiment 140% d'achats de sucre aromatisé, d'achats de farine, etc. Et donc, en gros, ça témoigne que les gens se sont dit, bon, on va essayer de passer le temps et on va essayer de trouver une utilité dans ce temps-là et dans le nouveau temps libre qu'on a pour pouvoir faire des gâteaux et pour pouvoir faire de la pâtisserie. On a aussi des chiffres de même ampleur sur, par exemple, le jardinage, où là, on a 50% des Français qui disent bah depuis moi le début du confinement je jardine beaucoup plus que par le passé. Et d'ailleurs c'est toujours intéressant et ce qui est important en fait quand on a des éléments de sondage, c'est de regarder si c'est confirmé par des éléments objectifs liés à la consommation. Et bah là quand on va regarder un certain nombre de données sur la façon dont les gens ont consommé dans les magasins, etc., etc., on s'aperçoit qu'il y a une augmentation, pareil, de 100%, de plus de 100%, pardon, par rapport à une période habituelle, d'achat d'outils de travail, d'outils de bricolage. On a vu une augmentation de plus de 100% d'achat de peinture, notamment, ce qui signifie que les gens se sont dit, allez, on va profiter de ce temps-là pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire normalement, à savoir repeindre un mur ou, je sais pas, réparer un meuble. Et donc ça, ces loisirs-là, effectivement, sont des loisirs et des passe-temps qu'on a vu très vite émerger depuis le début de ce confinement. Et il y a un autre élément qui est hyper intéressant, c'est les jeux de société. Où en gros, et ça d'ailleurs, ça montre aussi que les gens finalement, comme ils savent pas trop expliquer ce qui est en train de se passer, donc le moment présent, comme ils savent pas trop ce qui va se passer demain et que l'avenir est un peu troublé, ben en fait, on s'aperçoit que les gens viennent se rassurer sur des éléments passés, viennent se rassurer sur des trucs historiques et des trucs qui ont demeuré dans l'histoire de leur vie ou dans l'histoire des sociétés. Et en gros, un des exemples, c'est les vieux jeux de société. Et là, on s'aperçoit que parmi les 10 jeux et les 10 jouets qui ont été le plus achetés dès le début du confinement, on retrouve 10 jeux de société jeux de société, puzzle, etc. Et ça, c'est un truc historique, c'est un truc qui est inédit et c'est rare que les 10 jeux les plus achetés sur une semaine, ce soit des jeux de société ou des puzzles qui sont des trucs assez à l'ancienne.
C'est intéressant ce que tu racontes parce qu'en fait, il y a d'un côté le fait de faire des choses à la main et tu vois, il y a eu beaucoup cette tendance autour du pain, le fameux banana bread aussi, qu'on voit passer sur Instagram évidemment, qui sont un petit peu du savoir-faire d'antan, ce que tu disais. Il y a aussi cette idée que quand tu fais des choses avec tes mains, j'avais reçu un philosophe pour parler de ça, mais quand tu fais des choses avec tes mains, ça te rassure, ça te donne confiance en toi. Donc il y a aussi cette dimension de, ben, quelque part, je fais des choses. Et c'est vrai que quand tu fais des choses que digitales, ben, finalement, tu as l'impression que ta journée est passée à ne rien faire. J'imagine qu'il y a aussi une grosse consommation de Netflix ou de la VOD de manière générale.
Alors, ouais. Ouais, non, t'as entièrement raison. En gros, dès le début du confinement, en gros, les gens ont été dans un espèce de phénomène où ils se sont dit, ah, ben, voilà le moment où je vais pouvoir rattraper mon retard sur les séries, où je vais pouvoir rattraper mon retard sur les films, où je vais pouvoir rattraper mon retard sur un certain nombre de trucs que je devais regarder normalement sur mon écran et que je n'avais pas fait. Et en gros, ouais. Il y a quasiment aujourd'hui, là, dans les dernières études qu'on a reçues sur les baromètres que fait Adopi depuis le début de cette crise, on a quasiment 60% des Français qui disent je consomme beaucoup plus que dans une période normale des éléments culturels via le numérique et de ce qu'on appelle des produits de divertissement culturel. Et donc là, ouais, on voit une augmentation de la consommation entre guillemets de Netflix, on voit une augmentation du téléchargement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces éléments-là, on peut les croiser avec la façon dont les gens étaient inquiets et ce qu'ils ont cherché sur Google dès le début du confinement. En gros, il y a des données là hyper intéressantes qui est que on a pas mal de gens qui travaillent là-dessus sur ce que dit de la société les recherches qu'on fait sur Google. Et en gros, dès les premières semaines, on a vu que les gens ont recherché massivement sur Google films à télécharger, plateforme de téléchargement, plein de mots-clés comme ça qui montrent bien que dès le début effectivement du confinement, ils ont voulu rattraper leur retard et donc se sont mis à surconsommer du numérique, des films et tout ce type de produits culturels.
Et alors, comme on est bientôt à la sortie de ce confinement, ou en tout cas de ce premier confinement, ce qui va être intéressant, c'est évidemment l'après. Et toi, tu fais référence à un livre d'un philosophe qui s'appelle Tristan Garcia, qui s'appelle La vie intense. Est-ce que tu peux rapidement, peut-être, nous expliquer pourquoi tu fais référence à ce livre et qu'est-ce qu'il raconte, Tristan, dans ce bouquin ?
Alors, je fais référence à ce livre parce que, en gros, ce que je dis en décrivant un peu la façon dont les gens se sont divertis en confinement, c'est que ça a pu tenir une semaine, ça a pu tenir deux semaines, mais qu'au bout de deux semaines, ils se sont aperçus que ces loisirs-là, ces passe-temps-là, étaient très chronophages et finalement les faisaient tourner en rond. Et il y avait quelque chose en fait qui manquait principalement dans ces loisirs-là et dans cette façon de se divertir. C'était deux choses que je pense être au cœur de justement de ce qu'est la société des loisirs aujourd'hui, c'est l'intensité d'une part et l'authenticité. Et donc l'intensité, effectivement, c'est le philosophe Tristan Garcia qu'on a beaucoup parlé, où en gros il a fait un petit essai remarquable en commençant d'ailleurs à son livre en décrivant l'électricité, l'arrivée de l'électricité. Et en gros, il montre que dans les sociétés modernes, l'arrivée de l'électricité signe le début de notre volonté d'avoir des vies intenses, de vivre de façon intense, d'avoir le cœur qui bat à chaque activité, etc., qu'on va avoir tendance à faire. Et en gros, ce que je dis, c'est que ce dont on va avoir besoin en sortant justement de confinement, parce que d'une part, c'est la clé de la société des loisirs, et par ailleurs, c'est ce qui nous aura beaucoup manqué pendant ce confinement-là, ce sont des loisirs à forte valeur d'intensité, à haute valeur d'intensité. On va vouloir on ne va plus vouloir finalement faire semblant de faire du vélo sur un vélo d'appartement, faire semblant de prendre un apéritif via un écran et via des réseaux sociaux, faire semblant de regarder un match de foot, mais c'est un match de foot daté qui date des années 80, quand bien même ce sont des commentaires authentiques, etc., etc. Donc en fait, on va vouloir passer de ce faire semblant au faire réel, au faire véritable, et donc je pense que sorti du confinement, on va avoir besoin et on va essayer de se réfugier en tout cas dans les loisirs à forte valeur d'intensité. Et aussi du coup, et ça c'est Jean-Laurent Casselli qui a fait un très beau livre là-dessus pour montrer l'émergence de ce thème-là et de cette mode-là, c'est les loisirs à forte valeur d'authenticité et justement être dans ce qui correspond le plus à la vie authentique et en gros ce qui est très différent du fake, du virtuel et du faire semblant.
Donc la vie intense quelque part c'est... j'ai envie de dire le fait de faire des choses dans la vraie vie, donc ça, comme on avait l'habitude. Est-ce qu'il y a une notion et qui va être compliquée à avoir dans les semaines à venir, bien sûr, de faire ensemble, c'est-à-dire d'aller, par exemple, à un match de foot, tu faisais référence au foot, ou d'aller dans une salle de sport, ou d'aller, j'en sais rien, à un concert. Est-ce que ça aussi, c'est la vie intense ?
Alors, la vie intense, effectivement, autrui, les autres, la foule font partie intégrante de la vie intense, parce que les émotions, ce n'est pas uniquement des émotions personnelles, individuelles. Les sentiments qu'on va avoir, le cœur qui bat, etc., ne vient pas quand on est seul. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'ailleurs en confinement, parce que plus on est fermé sur nous-mêmes, plus on est dans notre bulle, moins on va avoir ce sentiment justement d'avoir notre cœur qui bat, parce qu'en plus autrui a tendance à ne plus être là, ou en tout cas à être éloigné. Donc ouais, autrui, la foule, le collectif, évidemment participe de ce ensemble. Mais d'ailleurs, on le voit bien, pour ceux qui sont habitués à aller voir justement des matchs de foot, à aller voir des matchs dans des stades, quel que soit le sport d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués et qui aiment aller voir des concerts, ils aiment ces environnements-là, évidemment pour voir ce qu'ils voient sur le terrain ou sur la scène, mais aussi pour sentir et ressentir ce qui se passe autour d'eux, et pour se ressentir justement toute l'émotion collective qui se dégage d'un stade ou d'une salle de concert. Et la difficulté quand on va sortir en fait de confinement, c'est que quand bien même on va avoir besoin et on va plaider pour le retour à des loisirs intenses à forte valeur d'intensité, le problème c'est que on sait que les gestes barrières, on sait que les mesures sanitaires qui vont perdurer, bah, vont rendre très difficile en fait le fait de continuer à faire des choses avec autrui. Et donc en gros, ça pose la question justement pour les loisirs intenses: est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller voir un match dans un stade avec des spectateurs de part et d'autre de soi? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller voir un concert sorti du confinement avec des personnes aussi tout autour de toi? Et on le voit très bien que ça va être très compliqué. On voit très bien que l'annulation des festivals, la répétition, fait que l'intensité en fait va avoir quelque chose qui va venir la percuter de plein fouet. C'est la sécurité, et notamment la sécurité sanitaire. Et donc il va falloir trouver, mais ça je pense que l'offre culturelle va réussir à trouver des moyens pour le faire, mais il va falloir trouver des moyens pour trouver de l'intensité, quand bien même on va avoir tendance à être beaucoup plus seul qu'avant. On sera seul, mais ensemble. Mais il va falloir trouver l'intensité à travers ça.
Et j'aime bien aussi ce que tu dis sur l'authenticité, c'est-à-dire que quand on a vu Instagram, on a défini que Instagram, c'était le royaume du faux, du fake. Et puis, avec les stories arrivant, on s'est dit, ah ouais, ben, les stories, c'est un peu plus authentique. Et puis maintenant, avec le live, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à regarder l'intérieur des célébrités, par exemple. Ben, le live, c'est vraiment une authenticité beaucoup plus forte, parce que t'es dans un contexte qui est choisi, c'est-à-dire que tu peux choisir le cadre, mais c'est quand même relativement limité, enfin pour la majorité des gens en tout cas. Est-ce que tu penses que ce confinement ça va amener derrière à beaucoup plus, comment ça peut amener à plus d'authenticité qui va sans doute s'associer avec cette histoire de live, je suppose?
Alors, authenticité, ça, t'as entièrement raison, c'est une vraie bonne question. Je pense que ce qui potentiellement va se développer, mais ce qui était déjà finalement très présent aussi avant, c'est la mise en scène de l'intime. Et en fait, ce qu'on voit là beaucoup, notamment avec les chanteurs, avec un certain nombre de musiciens, avec un certain nombre de groupes, quand ils font un peu des concerts en live justement de chez eux, c'est la mise en scène, ou en tout cas le fait d'accepter que leur public leur voit, les voit dans un espace très intime, chose qu'ils ne faisaient pas forcément ou assez peu finalement avant. On sait très bien que les individus, d'une façon générale, via les réseaux sociaux, mettent beaucoup plus en scène que par le passé justement la vie intime, et que ça peut être un vrai sujet. Mais les personnes publiques, d'une façon générale, font quand même assez attention, surveillent assez cela, ont des gens d'ailleurs pour s'occuper de ça pour eux, pour faire en sorte de ne pas trop dévoiler leur vie intime. Et ce qui est hyper intéressant là dans la séquence, c'est qu'effectivement, il y a plein de personnages publics, de personnes publiques, et notamment des artistes, qui ont accepté de donner à voir leur espace intime, leur intimité. Ça peut être leur salon, ça peut être leur cuisine, ça peut être même leur chambre à coucher, qui est l'espace intime par excellence, qui est le sanctuaire. D'ailleurs, c'est intéressant, la chambre à coucher, quand vous faites visiter votre nouvel appartement, votre nouvelle maison à un ami ou à un couple d'amis qui vient vous voir et vous rendre visite pour la crémaillère, la chambre à coucher est rarement la pièce que vous faites montrer soit en premier, ou c'est souvent d'ailleurs la pièce que vous ne faites pas montrer, parce qu'en gros, c'est le sanctuaire protégé. Vous faites montrer le salon, vous faites montrer la cuisine, vous faites montrer tout un tas de choses dont vous êtes très fiers de par votre nouvel achat ou votre nouvelle location, mais la chambre à coucher, ça reste le sanctuaire. Et ben là, dans la séquence qu'on est en train de vivre, justement, tout ça a tendance à se déliter un peu, mais parce qu'on est dans une séquence tellement inédite que finalement, on accepte aussi, je crois, de donner à voir une partie de son intimité parce que finalement, tout le monde est dans le même bateau et donc, un lit est un lit, une chambre est une chambre et voilà. Donc, peut-être ce qui va perdurer un peu, c'est la mise en scène de cette intimité.
Et il y a une vertu dont tu parles, donc quand on va sortir, donc la semaine prochaine a priori, il va y avoir une valeur extrêmement importante à ne pas oublier. Est-ce que tu peux revenir dessus ?
Alors ouais, t'as entièrement raison de poser cette question parce que c'est le point en tout cas central, je crois, du livre. En tout cas, c'est la proposition que je fais dans ces petits e-books publiés par les éditions d'Observatoire. La demande, c'était pensez le monde d'après et faites peut-être des propositions pour le monde d'après et la société de demain. Et en gros, en travaillant sur ce sujet du divertissement et de la façon dont on s'amusait et dont on s'amuserait demain, je me suis dit, bon, ce qu'on risque de voir apparaître comme phénomène quand on va sortir, c'est la mise en scène exacerbée sur les réseaux sociaux du bonheur retrouvé de plein de gens. C'est-à-dire que plein de gens vont, dès la sortie, mettre des photos sur le lieu qu'ils vont avoir retrouvé, sur peut-être la plage qu'ils vont aller retrouver, sur les spots un peu sympas estivaux sur lesquels ils vont se rendre très vite après la fin du confinement. Mais en gros, et ça évidemment, ils auront raison de le faire, mais en fait, ce que je dis, c'est que tout ça va générer et risque de générer pas mal de frustration parce que il y a tout un tas de gens, il y a toute une partie importante de la population, en fait, qui ne va pas vivre du tout ce déconfinement de cette façon-là. Soit pour des raisons économiques et financières, parce que beaucoup, un tiers des Français aujourd'hui sont en chômage partiel, sont en chômage technique ou sont en congé un peu imposé. Et donc, il y en a beaucoup qui vont avoir des difficultés financières à jouir de cet après-confinement. Et donc, ce que je dis, c'est que ça risque, la mise en scène du bonheur retrouvé risque de créer de la frustration. Et en gros, il ne faut pas ajouter à la crise déjà sociale qu'on va connaître en sortant de confinement, parce qu'il va y avoir une crise sociale réelle liée à la fermeture de boîtes, d'entreprises, etc. Et je dis qu'il ne faut pas ajouter à cette crise sociale un sentiment de frustration et un sentiment que certains finalement sont vraiment des privilégiés par rapport à d'autres. Et en gros, ce que je dis, c'est que c'est peut-être le bon moment pour retrouver ce dont on a un peu perdu au cours des années passées, c'est la pudeur. Et donc, la pudeur, c'est une belle notion parce que beaucoup en ont parlé au cours des derniers mois, des dernières années, à travers ce qu'on appelle la mode pudique. Donc, le fait de cacher son corps, le fait de cacher son visage, etc., etc. Or, je crois que c'est la mauvaise façon de parler de ce sujet-là. Et ce que je dis, c'est que on peut parler de la pudeur, qui est une belle valeur, mais entendu d'un point de vue de l'élégante discrétion, du beau secret, c'est-à-dire ne pas mettre en scène, ne pas donner à voir à tout le monde son bonheur, sa puissance ou le fait qu'on est un privilégié, parce que ça génère de la frustration et que c'est l'inverse de l'élégance à plus haut point. Et donc, ce que je dis dans le petit livre, c'est que c'est peut-être le bon moment pour retrouver justement un peu de pudeur. Au cours des siècles passés, je pense qu'il y avait un excès de pudeur, d'une façon générale, dans les sociétés. On est passé de cet excès de pudeur à un défaut de pudeur, totalement. Et donc, je pense qu'on peut essayer de profiter du moment pour retrouver un certain équilibre entre défaut de pudeur d'hier et excès de pudeur d'aujourd'hui. Et voilà, et ça, c'est à tout un chacun. Et ça, c'est entre les mains de tout un chacun, d'ailleurs. Et raison de plus, parce que c'est à travers le téléphone portable. C'est vraiment entre vos mains.
Et en même temps, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas surjouer la pudeur, si je me souviens bien.
Non, il ne faut pas surjouer la pudeur parce que, comme d'autres notions, à partir du moment où vous commencez par vous revendiquer comme quelqu'un de pudique, vous commencez déjà à être impudique. En fait, c'est une notion qui est hyper intéressante. C'est que justement, c'est une notion qui relève de l'éthique comportementale, qui relève vraiment de l'éthique individuelle. Mais c'est pas une notion qu'on doit clamer sur tous les toits. Je veux dire, si vous décidez de faire preuve d'un peu plus de modération, d'un peu plus de pudeur, justement, sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça dont je parle, c'est sur les réseaux sociaux, mais il ne s'agit pas derrière de le clamer. Il ne s'agit pas d'aller faire un post juste derrière en disant « Regardez, moi, je suis pudique, je ne mets rien. » Parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire ça, de fait, vous n'êtes plus pudique. Et donc, voilà, la bonne pudeur est la pudeur qui ne se proclame pas, la bonne pudeur est la pudeur qui ne se met pas en scène et qui n'est pas portée comme un trophée lorsqu'on a gagné un match.
Et justement, tu parlais tout à l'heure des vacances. Je pense qu'il va y avoir, et tu reprends les chiffres, je crois que c'est 6 millions de Français qui partent à l'étranger chaque année, donc qui, a priori, cette année, vont pas pouvoir partir. On ne sait pas précisément quelle va être l'ouverture des frontières, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que personne ne va pouvoir partir très loin. Est-ce que les lieux de vacances vont être particulièrement problématiques? Parce que effectivement, si les 6 millions de Français qui partent à l'étranger peuvent rester cette année, enfin vont rester, pardon, peuvent vont rester cette année en France, ils risquent d'utiliser ou en tout cas de squatter. Il va y avoir une sorte de guerre vers les meilleurs endroits, les meilleurs spots, les meilleures maisons et donc une inflation des prix peut-être, je sais pas.
Ouais, t'as raison, un vrai sujet. On commence d'ailleurs à le voir. On commence à voir depuis que le président a annoncé cette date du 11 mai. On a vu sur les sites de réservation, on a vu c'est un certain nombre de sites justement pour réserver et programmer ses vacances, un afflux de personnes qui sont venues se connecter. On a vu un afflux de personnes qui ont commencé à vouloir réserver, à vouloir programmer en tenant compte que bah, finalement le top départ était donné avec le 11 mai. Et évidemment, ça c'est hyper intéressant parce que tu l'as dit, effectivement, il y a entre 6 et 8 millions, 8 millions de Français qui partent chaque année à l'étranger l'été. Et bah là, on sait très bien qu'avec les mesures liées au déconfinement et liées aux mesures sanitaires, ces Français-là vont rester dans leur immense majorité en France. Donc finalement, ces Français-là, qui pour beaucoup font partie des Français aussi les plus favorisés, bah, vont avoir tendance à aller vers tous les spots les plus bankable, à aller sur les spots les plus instagrammables, à aller sur les spots les plus sympas. Et donc finalement, ce qu'on risque d'avoir, c'est que ces gens-là se ruent sur des spots qui en plus effectivement vont peut-être être un peu plus chers qu'à l'accoutumée parce qu'il va falloir aussi que le tourisme reparte. Et donc peut-être que à partir du moment où l'offre en plus se raréfie, ça sera sans doute aussi plus cher d'aller dans un certain nombre d'endroits par rapport à d'habitude. Et donc les Français et les Français qui ont l'habitude d'aller en France, de passer des vacances dans certains spots en France, là vont arriver peut-être demain en se disant, ah ben mince, normalement ici il y a personne et là tout a été pris, tout a été réservé, tout a été squatté par des gens qui avaient plus les moyens qu'eux de réserver en amont, de pré-commander en amont, de pré-réserver en amont. Et en gros, ce que je dis dans le livre, c'est que les vacances, c'est un élément central pour voir si vous êtes encore dans le jeu ou pas. En gros, sur les deux, trois enquêtes qu'on a, on voit bien que vous avez à peu près 10% des classes aisées, des classes favorisées qui disent « j'ai renoncé au cours des 5 dernières années à prendre des vacances et à aller en vacances pour des raisons financières ». Uniquement 10% des classes les plus favorisées. Si on prend la couche inférieure des classes moyennes, donc en gros la partie, ce qu'on appelle les classes moyennes inférieures, et ben là, on est quasiment à 50%. On est quasiment un Français sur deux qui appartient aux classes moyennes inférieures qui dit, ah ben si, ça m'est arrivé une, deux fois, trois fois au cours des 5 dernières années de renoncer à vacances d'été pour des raisons financières. Et donc, on a déjà ce phénomène-là qui existait, donc qui n'est pas une nouveauté, qui va être amplifié par la crise. Et en plus, on va s'apercevoir que tous les spots sont pris. Et donc, ça peut être aussi un sujet pour demain.
Qui risque de recréer de la frustration et par définition peut-être des manifestations aussi enfin je sais pas mais en tout cas peut-être une dualité dans la population française.
Ah, t'as entièrement raison. Ça c'est quelque chose sur lequel beaucoup commencent à travailler. C'est le potentiel de contestation sociale qu'on va trouver en sortie de crise, parce qu'il va y avoir des situations évidemment dramatiques de gens qui ne gagnent plus rien et qui n'ont plus aucun salaire depuis le début du confinement, depuis le 17 mars. C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas forcément les effets de la crise là dès maintenant, parce qu'ils ont encore un petit fonds de trésorerie, mais quand l'activité va repartir, septembre, octobre, novembre, c'est là où ça va commencer à être compliqué aussi pour certaines boîtes. Et donc, certaines boîtes vont aussi tomber à ce moment-là, pas dès septembre, mais vont tomber fin d'année, début janvier. Donc, effectivement, il y a un potentiel réel de contestation sociale. Et ce qu'on va voir aussi, vous savez, les profs, les enseignants voient très bien, à chaque fois à la rentrée de septembre, quels sont les élèves qui sont partis en vacances, qui ont pu bénéficier de vacances, qui ont pu sortir de chez eux. Et les élèves qui, au contraire, sont restés chez eux et, en gros, qui étaient assignés à résidence. Et ben là, en gros, vous allez avoir les deux phénomènes. C'est-à-dire que les profs vont très bien voir quels sont les élèves, donc, qui, entre guillemets, ont passé un confinement, plutôt correct parce qu'ils avaient des parents qui étaient avec eux, qui prenaient soin que les uns et les autres fassent leurs devoirs. Ils avaient des parents qui les ont fait sortir, qui les ont fait faire des activités, etc., etc. Et certains qui, au contraire, étaient vraiment assignés chez eux, ils n'avaient pas grand chose à faire à part peut-être être derrière leur écran. Bah, on va coupler ça au fait que beaucoup de jeunes enfants ne partiront pas en vacances cette année, tandis que d'autres vont réussir malgré tout à partir. Et donc là, je pense que l'effet sur les jeunes élèves va être réel. Et en tout cas, va être très perceptible de la part des enseignants et des profs à la rentrée de septembre.
Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Écoute, là, dans le contexte actuel, sachant qu'on est vraiment proche du confinement, je crois qu'on va, on va pas être obligé de claquer la porte, parce que la porte, elle est déjà bien claquée quand même. Elle est déjà bien fermée depuis le 17 mars. Donc, écoute, en termes de porte fermée et de porte claquée, je pense qu'on a une autre dose, donc je vais pas la fermer. À qui je veux ouvrir ou à quoi je veux l'ouvrir, voilà, tous mes copains et à toutes mes copines. Et là, pour le coup, j'ouvre grand la porte à tous mes copains et à toutes mes copines pour qu'ils viennent vite me revoir et qu'on refasse vite les fous tous ensemble. Donc voilà, j'ouvre la porte à tout le monde et par contre, j'arrête de la fermer parce qu'on l'a trop fermée.
C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt !